maintenant.
Alors, je commence par m'excuser. Je vais être, vous paraître sûrement très très terre à terre, un peu médiocre dans ma présentation, et je m'en excuse. Je suis une simple enseignante de lettres. Alors, ma première diapositive me présente. Vous voyez que je fais un petit peu beaucoup de choses en plus d'être enseignante de lettres, mais c'est ma fonction première. Alors, donc, je suis professeure certifiée dans un collège du 20e qui est une ZEP, hein, mais une ZEP parisienne. Je dirais pas ce que vous décriviez tout à l'heure au début, pas les ZEP vraiment où on est en désespérance, une ZEP qui marche assez bien en fait. J'ai été recrutée d'une manière un peu étrange par le service de formation continue de l'Académie de Paris, qui en fait m'a trouvée grâce à mon site internet. Donc j'ai trouvé que c'était une forme de recrutement originale, mais bon, pourquoi pas. Donc au départ, on m'a recrutée pour former en lettres. Ensuite, on m'a dit, bah, puisque tu es en ZEP, tu vas pouvoir former en éducation prioritaire. Et puis, bah, tu as un site internet, donc tu vas former sur les TIS aussi. Et puis, il y a un groupe absolument formidable qui se monte pour lutter contre l'illettrisme en lycée professionnel. Bah, oui, bien sûr, j'y vais, allons-y. Et puis, dernière étape, on vient me voir et puis on me dit, bon, bah, toi, évidemment, tu vas faire de l'histoire des arts. Comme si tout cela arrivait dans une espèce de parachèvement d'une carrière construite. Alors, je vous vois avoir des yeux ébahis. Moi-même, quand je repense à ce parcours, je me dis, mais comment suis-je arrivée là? C'est un petit peu... Voilà. Mais il se trouve que j'en suis là. Alors, accessoirement, on m'a donné d'autres missions. Je m'occupe du site des lettres de l'Académie de Paris et je coordonne aussi quelque chose qui s'appelle les GIPTIC, qui sont les groupes d'intégration pédagogique des technologies de l'information et de la communication pour le second degré. Donc, chaque discipline a un GIPTIC. Et j'étais là. Donc, on m'a dit, tu vas coordonner les 15. Donc... Outre mes élèves que je continue à voir, j'occupe ces missions et je suis également maman de 3 enfants. Donc cela vous donne un peu le peu de temps de sommeil que j'ai régulièrement. Mais je pense que si vous êtes assis là, c'est très certainement que vous êtes un peu dans la même situation que moi. Donc je me suis dit que je pouvais le dire, c'était quelque chose de partagé très certainement dans l'Assemblée. Alors pour vous dire comment on en arrive là, dans le cadre de ces différentes missions, j'ai affaire à différents interlocuteurs. Ces interlocuteurs viennent à moi, simple formatrice, pour me dire « on va monter une formation en histoire des arts, c'est toi qui t'en charges ». Et après, un peu vogue la galère, hein, débrouille-toi et puis on verra bien. Alors j'ai de la chance, je connais Martine que j'ai rencontré à un stage précédent. Et puis, j'essaye aussi de faire appel aux différentes fonctions que je mène. Alors, l'objectif de cette présentation, c'est de discuter avec vous, d'abord, de cette espèce de parcours un petit peu étrange, mais qui, je pense, doit faire écho. Pour ceux qui sont dans le second degré, vous allez voir que c'est quelque chose qui est assez traditionnel dans la manière dont on construit les formations de formateurs et... Après, les formations à destination des enseignants. Et puis, le second objectif, c'est aussi de s'interroger sur qu'est-ce qu'il va y avoir de spécifique à apporter dans ce cadre-là. Et je crois qu'il y a vraiment des enjeux spécifiques qui sont liés à cet enseignement. Hein, pas une discipline, vous avez discuté déjà de tout ça, je reviens pas dessus, mais voilà. Alors à Paris, comment ça s'organise? Il y a 3 groupes institutionnels qui sont impliqués dans ce travail autour de l'enseignement d'histoire des arts. Donc il y a un groupe de pilotage académique qui est sous la direction de l'IAIPR d'art plastique Philippe Sabourdin. Il y a un groupe de production de ressources TRAM. Alors pour ceux qui sont dans le premier degré, les TRAM, c'est une espèce de sigle ministériel, ça veut dire travaux, TRA, académiques mutualisés. Vous savez que l'éducation nationale adore les sigles, hein, c'est comme ça. Alors, ces TRAM sont impulsées par les inspections générales. Elles donnent des thèmes dans chaque discipline et aux académies de proposer des ressources pour répondre à ces thèmes. Donc à Paris, on est impliqué dans un certain nombre de TRAM, dont le TRAM Histoire des Arts, pour lequel on a produit des ressources. Et donc, j'ai fait mon travail institutionnel, j'ai mis le nom de tous les IAIPR avec lesquels nous travaillons. Donc il y a L'IAIPR d'art plastique, bien sûr, Monsieur Sabourdin, Madame Ertu, l'IAIPR d'éducation musicale, Monsieur Lobby qui s'occupe de l'histoire et géographie, je dis bien et, et Madame Martigny et Monsieur Dufour. Alors Madame Martigny est l'IAIPR de lettres, elle s'occupe elle de l'histoire des arts et Monsieur Dufour des nouvelles technologies. Et il y a ces fameux groupes gyptiques dont je vous ai dit que j'étais la coordonnatrice, qui eux visent à alimenter les sites académiques. Et à produire des ressources un petit peu clés en main pour les collègues. Alors, vous allez me dire, ces trois groupes n'ont pas forcément un rapport immédiat. Je ne sais pas si vous avez abordé déjà la question le cahier d'histoire des arts. C'est vrai que spontanément, les collègues se sont dit, un cahier qui suit l'élève de l'école jusqu'au lycée, faut pas... Enfin, il y a quelque chose d'un petit peu fantasmatique, je sais pas, rêvé. Par contre, par exemple, le collège ou le lycée ou l'école, un dossier numérique qui pourrait suivre l'élève, c'est plus raisonnable. Et du coup, on a immédiatement fait appel à ces groupes dans le cadre des nouvelles technologies. Alors, à Paris, il y avait une tradition de présentation de ressources en ligne gratuites. Le CRDP de Paris est spécialisé en particulier dans un certain nombre de collections que je me permets de mentionner, parce que ça peut vous faire également des ressources utiles. Donc il y a une première collection qui s'appelle Séance Plus, qui sont des accompagnements de films. Donc en fait, ce sont les producteurs de cinéma qui contactent le CRDP de Paris. Alors il y a aussi une collection au CNDP qui accompagnait les films. Il y avait Télédoc, Cinédoc. Au CRDP, c'était un petit peu plus complet parce que Cinédoc, c'est souvent une simple plaquette à trois repliés, je dirais. Là, c'est plusieurs dizaines, donc il y avait un certain nombre de choses. Il y a une collection qui s'appelle Pièces démontées, que je suppose tous ceux qui s'intéressent au théâtre doivent connaître. Alors là, c'est extraordinaire. Il y a plus de 200 dossiers désormais. Et l'idée, c'est qu'en fait, on accompagne les théâtres pour les pièces qu'ils ont. Donc, on va voir les répétitions avant la création des pièces. On va à Avignon. On fait un dossier qui est en deux parties, qui s'appelle « Avant la représentation, après la représentation ». Et ça permet aux professeurs d'avoir un dossier pédagogique complet sur les dernières nouveautés. Donc cette année, par exemple, le dossier phare, ça a été la dernière pièce. Vous savez qu'Ariane Nouchkine s'arrête. Et donc, on a accompagné ce dernier travail avec en amont tout un travail autour de sa troupe et puis un certain nombre de choses. Et il y avait deux autres collections qui étaient intéressantes pour les lettres. C'était Parcours littéraire européen et Parcours littéraire francophone. Là, ce sont des dossiers pédagogiques, mais sur des types d'œuvres qu'il est vrai, on avait tendance à laisser un peu de côté. Je suppose que vous avez beaucoup abordé cette question du patrimonial. Qu'est-ce qui est patrimonial? Qu'est-ce qu'il faut présenter dans cette histoire des arts? Et il me paraissait intéressant d'ouvrir ma présentation sur quelque chose qui apparemment n'a pas l'air très très patrimonial, le spectacle vivant, la littérature européenne qu'on aborde assez peu en lettres, et puis la littérature francophone. Alors, donc il y avait cette tradition de production de ressources, et le désespoir du CRDP de Paris, c'est que est arrivé quand ils ont mis un compteur de visites sur ces ressources en ligne gratuites. Donc, ils ont regardé qui les consulte, qui les télécharge et combien. Et il y avait un certain nombre de dossiers qui avaient demandé énormément d'investissements et financiers et du temps et beaucoup de choses pour, j'en souffre vraiment, 5 téléchargements. Donc, au bout d'un moment, on ne peut pas continuer à produire des ressources qui ne trouvent pas public. Donc, la première étape de ce travail pour l'histoire des arts, spontanément, la première question, ça a été « qu'est-ce qu'on a comme ressources ?» Donc, le CRDP de Paris, charmant, nous a fait une petite plaquette avec « nous, on a tout ça, il y a ces collections, il y a ce livre, il y a un certain nombre de choses. J'en ai que quelques-uns, mais je les fais passer bien volontiers, puis vous pouvez les télécharger sur le site du CRDP. » Mais voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour que ces ressources soient exploitables ? Alors, la première chose qui a été dite sur les ressources du CRDP, c'était qu'en fait, il s'agissait des traditionnels dossiers pédagogiques. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une espèce de balayage complet de l'œuvre qui est absolument impossible à remettre en place en classe. parce qu'on n'a jamais 15 heures à passer sur un même texte, il faut être honnête. Si on passe 3-4 heures, c'est déjà beaucoup. Et en plus, le collègue créant, ayant toujours peur du regard du collègue utilisant, en rajoute, jusqu'à faire que c'est inexploitable. Donc, la proposition d'Egyptique, ça a été de trouver une solution pour qu'on produise des choses que les collègues utilisent. Ça a été un grand questionnement. Alors, j'ai mis en lien le site de l'Académie de Paris. Comme je vais aller assez vite pour vous laisser un petit peu peut-être souffler, puis surtout poser des questions, je vous laisse le soin de vous y reporter. Je laisserai ce PowerPoint, hein, Martine. D'accord. Je pense qu'on pourra le mettre à disposition. Donc, on a commencé par une rubrique Histoire des arts. Et puis, on s'est dit, de quoi les collègues ont-ils besoin? Alors, spontanément, notre IAIPR a dit, ils ont besoin d'un historique. Ils doivent savoir comment on en est arrivé à mettre cet enseignement. Donc, on a eu toute l'histoire de Pierre Rosenzweig allant au ministère, demandant, réclamant l'histoire des arts. Et puis, on s'est dit à quoi ça sert aux collègues. Bon, mais il faut le faire. Donc, c'est important. On a eu une deuxième rubrique qui était mise en place dans l'Académie de Paris. Donc, il y avait la liste des pilotes, il y avait toutes les formations qui étaient proposées, toutes les animations. Et Dieu sait s'il y en avait, mais... En attendant, il n'y avait toujours pas de ressources. Et puis, on a fait une dernière page qui s'appelle « Ressources » où on a listé des sites Internet. Ce qu'avait déjà fait mieux que nous, certainement, l'Académie de Strasbourg. Avec son CRDP, ils ont un site absolument exceptionnel. Ce qu'avait très bien fait la plupart des CRDP. Donc, on s'est dit « Mais on est quand même tous en train de faire un travail bien inutile. Donc, qu'est-ce qui va être utile ?» Et donc, on a créé une quatrième page qui s'appelle « Témoignages ». Et cette page... Elle avait une petite vocation. Au départ, il s'agissait juste de recueillir les témoignages sur l'oral tel qu'il avait été organisé dans les établissements qui avaient bien voulu le mettre en place l'année dernière. Alors, il se trouve que là, pour le coup, on a compté les téléchargements et ça a été incroyable. Je dis pas qu'on était, mais on avait plus de 200 consultations par semaine, ce qui est énorme pour un site académique, hein, ça faisait beaucoup. Et lorsqu'on l'a mis en ligne, on a eu très rapidement des semaines à 700, 800, 1000 consultations. Donc ça voulait bien dire qu'on répondait avec cette question-là à un vrai besoin. Alors, comme on était engagé dans un tram, je vous ai expliqué, avec le ministère, nous, ne nous demandait pas ça. Ce qu'il nous demandait, c'était de produire des ressources, non pas pour évaluer l'oral d'histoire des arts, mais pour l'enseigner. Donc, on s'est quand même lancé très sagement dans la commande. On a fait un travail qui a beaucoup plus de valeur, je trouve, méthodologique que de valeur intrinsèque. Alors, je m'explique. On a choisi un objet. Parce que je vous explique un petit peu comment ça se déroule, hein, ces espèces de réunions. Il y a tous les IAIPR, et puis les IAIPR, ils sont dans une espèce de... Pas de rivalité, mais ma foi, bon, un petit peu quand même. Hein, on veut montrer que oui, notre matière, etc. Il y a les collègues qui souvent sont terrorisés, parce qu'il faut reconnaître, hein, quand on est face à son IAIPR, on n'est pas très à l'aise. Et voilà, on discute, et puis on se dit, mais d'accord, on va produire des ressources, mais quoi, comment? Alors tout le monde arrive avec quelque chose en disant, bah, moi j'ai préparé ça. Puis après on se dit, oui, mais il faudrait quand même que ce soit... interco, trans, multidisciplinaire, et puis il faudrait... Et puis le temps qu'on se mette d'accord sur le vocabulaire, la séance a quand même bien avancé. Et puis il y en a un en général qui a une bonne idée, qui dit on va travailler sur ça. Alors là, Monsieur Sabourdin, il s'était lancé, il avait dit on va travailler sur la fontaine Stravinsky. Alors là, je peux vous dire que... Voilà, on est tous restés... D'accord, elle est où? C'est quoi? Enfin bon... Et puis en lettres, alors moi je voyais pas du tout ce que j'allais pouvoir faire dans ma discipline là-dessus, si ce n'est des recherches documentaires. Donc bon. Et alors là, l'inspecteur d'histoire-géographie dit, moi, qu'on soit bien clair, les collègues qui travaillent pour moi, ils ont déjà travaillé sur le temps moderne, ils travailleront sur rien d'autre. On s'est tous dit, tiens, les temps modernes. Ça va peut-être être mieux, finalement. Donc, bon, bah d'accord, puisqu'ils ont déjà travaillé, on va se lancer sur les temps modernes. Et donc, comment s'est organisé le travail? Chaque IAIPR a repris ses ouailles, a travaillé avec eux, chacun dans sa discipline. Alors, j'ai dit, c'est pour ça que ça a une valeur méthodologique intéressante. C'est qu'on est parti à l'envers. Et après, on est arrivés tous avec nos 150 fiches, parce que évidemment on veut plaire à son IAEPR, on est plein de bonne volonté, on veut faire beaucoup de choses, etc. Donc alors je vous donne le cas. Hein. Oui non mais ils le savent, hein, on a un discours assez libre, y a pas de problème. Donc on est arrivé. Alors je dis clairement, mais c'est vrai qu'on a un groupe de travail où ils ont conscience aussi, pour eux aussi c'est un travail méthodologique. Alors la vraie difficulté, c'était à partir de ce que chacun avait fabriqué, est-ce qu'on voyait le même film ? Et en fait, on avait presque l'impression qu'on ne voyait pas le même film. Donc on a été obligé de faire un premier travail qui était de dire qui travaille sur quelle séquence du film, pour qu'il y ait un espèce de déroulé. Alors les lettres, évidemment, alors là je parle, c'est mon travail à moi, donc je peux en dire autant de mal que je veux. On s'était lancé sur l'idée de travailler comme si c'était une œuvre intégrale. C'est-à-dire on allait lire le film comme on lit un roman. Donc structure narrative du film, reprise. Alors on avait fait des choses très très jolies. Hein. Vous pouvez regarder, c'est très utile. Alors il y a un diaporama. Sur chaque diapositive, il y a une image qui rappelle une séquence du film. C'est dans le désordre. Il y a une autre diapositive où il y a tous les sous-titres. Il faut associer le sous-titre à la bonne image. Et après, il faut remettre les diapositives dans l'ordre. C'est vraiment un travail d'organisation. Alors on a fait beaucoup d'activités. Il y en a 11. Ça veut dire 11 séances qui durent au minimum entre 1 et 2 heures. C'est-à-dire que vous imaginez, on a créé un travail. Le collègue qui est, entre guillemets, un peu bête et discipliné et qui veut suivre notre travail, il en a au minimum pour 24 heures. Bon, après, on s'est quand même, on avait un petit peu conscience de ce qu'on faisait, donc on a écrit, évidemment, il s'agit de choisir les activités que vous pouvez réaliser en fonction de votre matériel, des choses comme ça. Mais enfin, en attendant, on avait quand même construit une séquence en 11. Alors, en histoire-géographie, ils étaient plus raisonnables, ils avaient fait que 4 heures, mais il paraît que 4 heures par rapport au programme d'histoire-géographie, c'est énorme. Donc, c'est presque pire que nous, finalement. Et en éducation musicale, elles avaient fait tout un travail, ça dure aussi 4 heures. Alors, sachant qu'ils ont 1 heure par semaine, je crois que c'est très ambitieux. Et en art plastique, ça dure 6 heures, avec des demi-groupes et tout un travail autour des machines, la réalisation de petits films vidéo. Donc, au niveau de la création, de l'innovation des nouvelles technologies, cette séquence, elle reste extraordinaire. Et ça, je le dis de ce point de vue-là, pour un collègue qui voudrait se former à ça, c'est très bien. Maintenant, du point de vue de l'enseignement de l'histoire des arts, ça nous semblait procéder à l'envers. Alors, on s'est beaucoup interrogé. Cela dit, le résultat étant là, il est sur le site EducNet. Hein, vous pouvez regarder. Il y a un site EducNet spécialisé Histoire des Arts. Et vous avez quelques ressources, dont la nôtre et dont d'autres qui sont de très bonne qualité. Alors, sachant qu'on en était là, on a produit des ressources. Après, il fallait aller les vendre, nos ressources, parce que c'était pas tout. Donc, on nous a invités, lors d'animation de l'inspection sur l'histoire des arts, à venir les présenter aux collègues. Donc, le matin, les inspecteurs, comme on dit un peu, prenaient les cailloux. Qu'est-ce que c'est que cet enseignement? On n'a pas de temps, on n'a pas de temps de coordination, on peut pas travailler ensemble. Et puis, moi, je le ferai pas. Et puis, moi, je veux pas travailler. Enfin, voilà. Et l'après-midi, nous, on arrivait et on était extrêmement bien accueillis par les collègues. Ah, c'est très bien, c'est formidable. Ah oui, on va essayer. Et on a même eu des retours, ce qu'on n'avait jamais. C'est-à-dire des gens qui avaient utilisé en disant, là, j'ai eu une difficulté, comment j'aurais pu faire? Donc, finalement, on s'est dit, bon, on a procédé à l'envers. C'est peut-être pas exactement ce qu'il aurait fallu faire. Mais c'était pas si mal. Alors, il y a eu 3 expériences et une animation à destination des chefs d'établissement. Alors, les chefs d'établissement, leur grand problème, c'était, mais où est le financement pour le matériel? Bon, ça, c'est normal. On a eu une animation avec ceux qui avaient mis en place l'option l'année dernière, qui s'était très bien passée. Cette année, à nouveau, avec ceux qui n'avaient pas mis en place l'option et qui, en tout cas, pour la partie qui nous concernait, nous, formateurs, était assez cordiale. Je dis pas que pour les inspecteurs, c'était aussi cordial, mais pour nous, c'était relativement cordial. Alors, du coup, on nous a dit, bah, formidable, vous êtes déjà un groupe, vous allez faire des formations. Hein, parce que bon, hein, voilà, vous n'allez pas vous ennuyer. Donc, on nous a demandé de faire des stages dans chacune des 4 disciplines. Alors, je vous ai mis les références d'un NetVibe. Alors, un NetVibe, c'est une espèce de, comment dire, portail web personnel. Sur lequel on peut mettre des liens, des petits messages, des choses. Et donc, il y a une formatrice qui a fait un NetVibe pour une formation qu'elle a organisée. Ça vous permettra d'avoir un regard sur ce qu'on a pu produire et organiser. Alors, le problème majeur de ces formations, c'est que comme elles apparaissent dans le plan académique de formation dans les disciplines, la question majeure qui émerge, c'est c'est formidable, je vois très bien ce que je peux faire dans ma classe, mais ce qui me pose problème, c'est comment j'en parle à mes collègues et comment je convainc mes collègues. Et y a une grande détresse. Alors, je ne sais pas si c'est lié au fait qu'en formation, on déverse un peu toutes les angoisses, peut-être. Mais il y a une grande détresse des collègues à travailler, à dire je ne vais pas trouver écho. J'ai envie de le faire, ça m'intéresse beaucoup. Mais je suis sûre que mes collègues diront non, ou je suis sûre que syndicalement, il y aura une opposition et qu'on ne nous laissera pas faire. Il y a ça aussi, faut reconnaître. Et du coup, on s'est dit, on est dans quelque chose qui, en fait, est utile pour l'enseignement, mais on rate les vrais besoins des collègues qu'on avait déjà identifiés, qui étaient autour de l'organisation de cet oral. C'est-à-dire comment on se met d'accord, comment on crée un parcours, et finalement, ça relève à la fois de l'histoire, enfin, ça relève pas spécifiquement de l'histoire des arts, mais c'est à l'occasion de cet enseignement qu'on est obligé de le prendre à bras le corps, hein, finalement. Alors du coup, on nous a demandé aussi d'aller dans des établissements, les aider à organiser leurs oraux. Donc l'année dernière, on a fait deux stages, un stage au collège Courteline et un stage au collège Couperin. Alors j'ai mis un petit peu de manière provocante, mais vous avez remarqué que mon discours est assez provocant, donc après tout, on va jusqu'au bout. Le premier stage, c'était plutôt mettre les élèves au travail, et le deuxième stage, c'était plutôt mettre les collègues au travail. Mais bon, voilà, il faut avouer qu'il y a des établissements où l'histoire des arts a été compris comme une propédeutique au TPE. Et donc, ils ont dit, le but du jeu, c'est de donner des méthodes de travail aux élèves. Nous, on ne fait rien. Et ça a été dit comme ça. Voilà, on leur donne un sujet, ils font des recherches, ils produisent un dossier, ils arrivent le jour de l'oral, ils nous donnent leur dossier. Alors, ils avaient prévu une organisation où le dossier était donné 15 jours avant. Donc, ça leur laissait le temps de lire les dossiers. Puis ensuite, ils posaient des questions sur le dossier. Donc le professeur, finalement, n'enseigne pas l'histoire des arts. Les élèves en font, mais pas le professeur. Bon, c'était intéressant comme démarche, et au moins ça a permis de lancer les choses. Parce qu'après, ils se sont rendus compte que les élèves n'y arrivaient pas, qu'il allait quand même peut-être falloir proposer quelque chose. Mais au départ, c'était vraiment leur idée. C'était, on met les élèves au travail. Pourquoi pas? Au collège Couperin, c'était autre chose. C'était une espèce d'angoisse de la collègue d'art plastique qui, elle, avait déjà mis vraiment au cœur de sa discipline des temps d'histoire des arts et qui craignait que ses collègues ne veuillent pas travailler avec elle. Et donc, ce qu'elle avait besoin, c'était simplement qu'un tiers neutre vienne, leur dise « vous en faites déjà, nous n'avons qu'à tirer les fils pour... faire des nœuds les uns avec les autres et on va trouver quelque chose. » Et ça, c'est un travail qui a pris 4 séances de 3 heures. On a eu une première séance de 3 heures au mois de juin où on a expliqué ce qu'était l'oral d'histoire des arts et que ça allait être obligatoire et que donc il fallait s'y mettre. On a eu une autre séance au mois de septembre où avec les partants, les arrivants, on a peu ou prou refait la même séance, mais avec un petit peu plus d'urgence. On a eu une séance là au mois de décembre où on a organisé les modalités pratiques de l'oral, c'est-à-dire qui se met avec qui. C'est une vraie question, parce que des binômes, c'est compliqué. Le texte de loi est assez complexe. Puis il y a des gens qui ont peur et qui veulent absolument être accompagnés par une discipline dite accréditée. Voilà. Y a des collègues de lettres. Moi, j'ai été très surprise parce que pour moi, un collègue de lettres doit pouvoir gérer cette épreuve. Il y a des collègues de lettres qui sont très angoissés, qui ne se voient pas du tout dans cette logique, qui ne comprennent pas que les arts du langage font partie de l'histoire des arts. Enfin, il y a beaucoup de difficultés de cet ordre. Et là, donc, la prochaine séance que je vais faire chez eux le 10 février, elle va consister à ce que j'ai appelé une séance de co-formation. C'est-à-dire que chaque professeur ils ont fait une liste d'œuvres. Enfin, pardon, je vous ai pas expliqué les modalités pratiques. Ils ont fait une liste d'œuvres autour d'un même thème pour chaque classe. Donc, les élèves ont entre 6 et 8 œuvres en fonction des options qu'ils font. S'ils font des P3, s'ils font latin, ils ont un petit peu plus d'œuvres. Et ces œuvres sont autour d'un thème commun qui a été choisi pour cette année, c'est la répétition. Donc répétition dans tous les domaines, en littérature avec la notion de réécriture, en musique, bon, de manière évidente avec Steve Reich, en art plastique, en espagnol. Elle a décidé de travailler par exemple sur les Ménines. De Velázquez jusqu'aux avatars modernes, enfin voilà, répétition, détournement, un petit peu parodie peut-être, tous ces thèmes-là. Et donc les élèves savent qu'ils vont tomber sur une de ces 6 œuvres qui sera mise en écho avec une œuvre qu'ils ne connaissent pas. Pour éviter la régurgitation de Wikipédia, pour éviter la voilà la récitation d'un dossier que les parents favorisés ont fait avec l'élève ou ont fait faire encore pire, et donc pour permettre à l'élève de montrer à la fois des connaissances qu'il a travaillées et des compétences qu'il va pouvoir mettre en œuvre dans une autre, sur un autre, une autre œuvre qui fait écho, hein, qui relève du même thème et qui fait écho, mais qui appartient à un autre art. Donc, par exemple, si on est interrogé sur Steve Reich, on aura forcément comme deuxième œuvre soit de la littérature, soit des arts plastiques. Voilà. Donc, ce travail nous a amené à... Bon, il a été mené avec plusieurs collègues et on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'un groupe de formateurs, d'autant qu'évidemment, cette année... On a 15 collèges qui nous demandent le même type de stage et que nous sommes 5. Et qu'il faut impérativement dans ce type de stage intervenir à 2 disciplines parce que sinon on n'est pas crédible et on n'est pas audible. Voilà, on l'a vraiment expérimenté, on n'est pas écouté si on n'est pas au moins à 2. Alors du coup, on a carrément eu aussi une demande d'un bassin de formation avec 90 stagiaires qui viennent pour mettre en place dans le bassin de formation. Alors, cette question du stage fil, ça nous a invité à repenser notre travail de formateur. Nous, on était partis vraiment sur de la production de ressources, au plus près du cours. Et on se rend compte que ce qui fait défaut aux enseignants, finalement, quand ils ont dépassé l'idée, les a priori qu'ils ont, c'est-à-dire c'est forcément patrimonial. Non, il y a le cinéma, il y a les arts numériques, il y a la pocket vidéo, il y a plein de choses, donc voilà. Une fois qu'ils ont compris qu'on pouvait prendre en compte, par exemple, les partenariats qu'on menait, etc., tout ça, finalement, c'est assez bien accepté. Ils se sentent capables. Par contre, ce dont ils ne se sentent pas capables, c'est de travailler avec d'autres. Et là, nous, en tant que formatrices, on a été... Alors, je dis formatrices parce que malheureusement, nous sommes qu'un groupe de filles. On rêverait d'avoir des... Mais je crois que c'est le problème de l'enseignement. On n'a pas beaucoup d'hommes avec nous. Alors, on ne sait plus... On s'est du coup penché vers quelque chose d'autre qui était comment on négocie avec un chef d'établissement des avantages pour les collègues de façon à ce qu'ils puissent s'organiser. Alors on a carrément eu une séance où entre nous on s'est dit qu'est-ce qu'on va dire au chef d'établissement, qu'est-ce qu'on va donner comme argument, qu'est-ce qu'il peut utiliser comme heure, comment il peut libérer les collègues qui veulent bien s'y investir. Et on rentre dans un domaine qui nous était complètement étranger en tant que collègues, c'est-à-dire simplement le domaine finalement fonctionnel, comment on travaille à plusieurs. Alors, du coup, en bilan, vous voyez, j'ai essayé d'aller très vite pour vous permettre de donner peut-être vos expériences et puis qu'on puisse échanger un tout petit peu là-dessus. Moi, j'ai plus de questions que de réponses. C'est-à-dire que je me pose toujours la question de est-ce qu'il faut vraiment des ressources pour l'histoire des arts ? Et est-ce qu'il en faut des spécifiques libellés comme tels ? Parce que... on s'est rendu compte que c'était la chose vers laquelle les collègues allaient. Les collègues du second degré se précipitent sur deux choses. C'est le répertoire histoire d'art qui est aux éditions Accès, où il y a toute une collection d'œuvres, un CD-ROM pour montrer. Alors c'est intéressant, mais ça veut dire que immédiatement ils évacuent tout ce qui est musical. Donc moi, ça me pose question. Et la deuxième chose sur laquelle il se précipite, c'est la publication du CRDP d'Aquitaine, qui s'appelle « Clé pour enseigner l'histoire des arts », qui normalement est destinée au cycle 3, mais qu'ils prennent en disant « Non, c'est pour le collège, ça correspond au programme ». Et alors, c'est ce qu'ils aiment beaucoup, c'est que le livre du prof fait une 20aine d'euros, il y a un CD-ROM avec des séquences pédagogiques, il y a un autre CD-ROM avec de la musique, donc c'est très très bien, c'est très bien construit. Et puis, il y a le livret de l'élève qui coûte 2,90 €, donc on peut même se permettre de demander aux élèves de les acheter. Formidable. Sauf que si on rentre un petit peu dans la logique de cet outil-là, il est construit pour des historiens. Et du coup, le professeur de lettres qui, de manière très volontaire, a dit « Oui, moi, je veux bien, c'est formidable, je vais en faire », face à cet outil-là, il est dans quelque chose qui n'a pas l'approche sensible de l'œuvre. Voilà. Alors, du coup, on est vraiment dans cette question. Est-ce qu'il faut des ressources spécifiques? Est-ce qu'il faut qu'on développe, nous, par exemple, un site Histoire des Arts avec des ressources qui ne seraient libellées que pour ça? Comment on scénarise ces ressources-là? Est-ce qu'il faut que ce soit des comptes rendus d'expérience? Mais est-ce qu'on arrive à s'approprier ce qu'a fait un autre collègue? Est-ce qu'il faut que ce soit des ressources type formation pour les collègues, avec un petit peu ce que proposent les ouvrages? C'est un petit peu difficile. Et puis, est-ce que finalement, on ne devrait pas laisser chaque collègue se lancer dans sa propre aventure de scénario pédagogique? Parce qu'après tout, on est des cadres de la fonction publique, on doit faire notre propre ingénierie de cours. Et puis, ne répondre qu'à la question de l'oral. Mais alors là, dans ce cas-là, quelles sont les compétences requises? Qu'est-ce qu'on demande comme compétences professionnelles à un enseignant pour aller créer ce type de travail? Et puis, nous, on est vraiment dans quelles aptitudes les formateurs, j'aurais dû mettre les formatrices, doivent-elles développer pour former en histoire des arts, dans l'histoire des arts, sur l'histoire des arts? C'est... Voilà. Alors, j'ai voulu ouvrir cette présentation par quelque chose, vous voyez, d'extrêmement concret. Voilà, si vous souhaitez que je vous montre certaines des ressources que j'ai mentionnées, on peut prendre quelques minutes pour que j'utilise la connexion Internet et que je vous montre ça. Simplement, vous dire que ça fait... Enfin, je pense qu'il y a une question de professionnalité qui est très forte dans cet enseignement-là, que les collègues vivent moins violemment que le socle commun, mais qui pâtit beaucoup de sa proximité avec l'introduction du socle commun, et que c'est la énième nouveauté des énarques d'en haut qui ont décrété que, alors que ça pourrait être tout à fait autre chose. Alors, vous savez, vous êtes là, vous êtes forcément convaincu, hein, mais en tant que formateur qui allait peut-être devoir après dans vos établissements, c'est vrai qu'il y a peut-être un argumentaire à réfléchir. Voilà. Donc, je vous laisse intervenir, réagir, et puis voilà.